Rebonjour. On est de retour. On était rendu à l'autre bout du studio, notre studio qui est immense, oui. Où j'allais prendre une gorgée d'eau. Et me voici de retour. Merci. Bonjour tout le monde. Élisane Pellerin, bonjour.
Bonjour François.
Toute une récolte cette semaine.
Bonne récolte cette semaine, François, effectivement.
Alors, on va y aller tout de go. C'est presque une suite à la chronique scientifique de Philippe Ducharme de tout à l'heure.
Oui, c'était voulu, c'était tout à fait voulu.
Ben, c'est bien fait. Des bactéries ayant migré des intestins jusqu'aux yeux pourraient être responsables de certaines maladies dégénératives de la rétine.
Oui, c'est ce qu'on a trouvé donc dans une étude qui est publiée dans la revue Cell. C-E-L-L, qui est en anglais, qui a été publié par des Chinois et des Britanniques. Donc, ça pourrait être responsable, du moins en partie, de certaines maladies dégénératives de la rétine qu'on pensait être entièrement génétiques.
Oh.
On soulève donc espoir que ces maladies puissent être un jour guéries avec des antibiotiques. Puisque si on trouvait, en fait, que ces bactéries sont principalement... En lien avec la dégénération, on pourrait enlever les bactéries qui se retrouvent dans l'œil. On est encore loin de là, mais quand même, ça ouvre une porte qu'il va falloir inspecter pour les prochaines années pour les chercheurs dans les maladies dégénératives de l'œil.
Ben moi, je peux vous dire que c'est vraiment comme c'est vraiment comme une nouvelle avenue parce que tout le temps, les maladies dégénératives de l'œil, on associe toujours ça à des questions génétiques, hein, comme la rétinite pigmentaire, j'en sais quelque chose, ou la maladie neuropathie de Leber. On associe toujours ça à la génétique, puis on fouille très loin de ce côté-là. Puis là, tout d'un coup, ce serait les microbiotes qu'on a dans notre intestin qui remontent jusqu'aux yeux pour accélérer ou créer produire des problèmes, pas génétiques, mais des problèmes oculaires. Alors, des souris qui ont été modifiées génétiquement. Je te dis que les souris travaillent fort.
Oui, pour, pauvres souris, moi qui aime les animaux, je trouve ça encore triste, je ne voudrais pas que ce soit fait sur moi. Donc, merci
pas tout
aux
de suite.
Souris.
Ouais, voilà.
Donc, on savait déjà que les mutations du gène CRB1 affaiblissaient la barrière protectrice des yeux. Ce qu'on sait maintenant, grâce à l'Université Collège de Londres, c'est qu'on a constaté que les mutations de ce même gène rendent un peu plus perméable la barrière intestinale, ce qui permet aux bactéries intestinales de s'échapper et de se rendre jusqu'aux yeux.
Et donc, l'administration d'antibiotiques a permis de réduire les dommages aux yeux de ces dernières. Alors, en conservant ou en cloisonnant les bactéries dans l'univers intestinal, là, où est-ce qu'elles sont supposées faire du bon travail, ça l'empêche que ça remonte jusqu'à l'œil. On estime à 5,5 millions de personnes à travers le monde le nombre de personnes qui ont des maladies héréditaires de la rétine. Et je lève ma main, je suis...
Tu fais partie de ce groupe de privilégiés, François.
Ben là, je ne sais pas si je dois manger du yogourt ou plus en manger. Là, je suis tout mêlé.
C'est difficile de savoir quoi faire. Voilà. Comme bois de l'eau.
Exact. En parlant d'alimentation, maintenant, toujours un peu dans la même optique là, de l'alimentation, puis l'effet que ça peut avoir sur nous, les fibres dont on vante toujours... le bon usage contribuerait au fonctionnement du cerveau des aînés.
Oui, en fait, je vous ai trouvé une autre recherche, cette fois publiée dans la revue Nature Communication, toujours en anglais. On parle de la prise quotidienne de suppléments de fibres qui aurait amélioré en 12 semaines le fonctionnement du cerveau d'individus âgés de 60 ans et plus. C'est une étude britannique, cette fois, toujours le King's College de London qui a remarqué que ces suppléments modifient en profondeur le microbiote intestinal des participants, notamment en augmentant la quantité de certaines bactéries jugées bénéfiques. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a recruté 36 paires de jumeaux identiques, donc qui ont la même génétique. Depuis 60 ans, un jumeau a reçu des suppléments de probiotiques, donc en fibres, et l'autre a reçu un effet placebo. Donc, un médicament qui était du sucre, hein, qui ne contient rien. Et donc, au bout de 12 semaines, les sujets qui avaient reçu le supplément de fibres présentaient une performance supérieure lors des tests
D'accord.
visant à mesurer la fonction cérébrale, le temps de réaction et la vitesse de traitement au niveau des fonctions neurologiques. Par contre, on sait aussi que ces personnes-là, parce qu'elles avaient mangé plus de fibres,
Oui.
ont réduit, ont mangé moins de repas quotidiens
voilà.
habituels, si on
Préparer
veut.
Préparer des repas, de la nourriture transformée,
oui.
ou des choses comme ça.
Donc, il y a aussi une baisse dans leur rapport au niveau du gras qu'ils ont mangé.
Le gras, okay. le sucre qu'on trouve souvent dans les aliments préparés. Dans l'article, je trouve ça intéressant parce qu'ils disent, en outre, les preuves de l'existence de l'axe intestin-cerveau. Moi, quand j'ai lu ça, l'axe intestin-cerveau, ça m'a fait sourire parce que souvent, c'est un axe cerveau-intestin.
Oui, mais non.
Ça marche plus dans l'autre sens, là, qui dit « Arrête donc, chercher d'autres beignes. » Alors là, il faut faire attention. Mais sans blague, on comprend qu'avec ce qu'on a lu tout à l'heure au sujet des yeux qui peuvent être affectés, les maladies oculaires peuvent être, je dirais, stimulées par des bactéries qui viennent des intestins. Mais en plus, si on prend soin de nos intestins en mangeant des fibres, ça a l'air d'avoir un bon effet sur le cerveau. Moi, je trouve ça... c'est juste une preuve qu'il faille bien
Donc,
manger.
Donc, on n'est pas sûr, en fait, si c'est le manque de gras, la baisse de calories qui est en lien ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose ici. On a trouvé un lien qu'il va falloir explorer pour savoir exactement qu'est-ce qui est en jeu. Mais encore une fois, ça ouvre une porte à de futures recherches pour savoir comment on pourrait aider à contribuer à descendre les problèmes au niveau cognitif des personnes âgées.
Oui, comme quoi une bonne alimentation, là, ça
oui.
ça fait pas juste nous faire mieux paraître pour le barbecue de l'été. Voilà. Paralympique, encore!
On parle encore de Paralympique, François, et ce sera ça probablement jusqu'à l'été. Je m'en excuse.
Mais non, mais c'est bon. C'est bon qu'on en parle parce que on parle de Paralympique, ben on parle d'accessibilité, puis voilà.
Donc, Toul Libre veut rendre les Jeux olympiques plus accessibles. Toul Libre, qui est une application qui veut organiser un événement, en fait, dans l'optique de rendre les Jeux olympiques plus accessibles aux personnes en situation de handicap. En fait, cette application-là va aider au niveau du transport, de l'hébergement et de l'organisation matérielle en fournissant des adresses qui sont
okay.
adaptées pour les personnes en situation d'handicap.
Oh, ça c'est bien, ça permet de faire la promotion indirectement. En fait, ça veut dire que si on voyage, qu'on a besoin d'adaptation, ça permet de créer un lien avec les endroits qui sont accessibles. L'événement, évidemment, on parle de l'événement sportif majeur que représentent les Paralympiques ou les Jeux olympiques aussi qui ont lieu à Paris le mois qui précède. Donc, Toulib, T-O-O-L-I-B, développe un nouveau produit, Toulib Partner. Évidemment, toutes les applications françaises ont des noms anglais, on le sait bien. Plusieurs groupes comme Accor, ça c'est une grande chaîne hôtelière, et le Club Med ont manifesté leur intérêt pour s'associer à Toulib pour utiliser l'algorithme de leur site afin que des personnes qui cherchent des accommodements, des hébergements accessibles puissent trouver et réserver un hôtel adapté. Et là, on parle même de qu'il serait possible d'adapter sur commande des chambres qui, à prime abord, ne le sont pas. Là, il faudra voir comment ça fonctionne, mais de permettre en conséquence d'augmenter le nombre d'hébergements dans un rayon de 2 heures de train autour de Paris.
Il faut dire que l'algorithme, en fait, est capable de calculer un niveau d'accessibilité, un pourcentage d'accessibilité d'un endroit. C'est pourquoi là, des grandes compagnies veulent s'y associer dans l'optique là, d'améliorer leur image et d'avoir accès à une clientèle à laquelle ils n'avaient pas accès, donc à une plus grande base au niveau de la clientèle.
Donc, ça crée comme une sorte de cote d'accessibilité.
Oui.
Savoir si l'endroit est accessible à 46 ou 78 % ou ainsi de suite. Parlant d'accessibilité, en Allemagne, c'est pas champion pour la Coupe d'Europe.
En Allemagne, c'est pas champion pour la Coupe d'Europe, malheureusement. Donc, il reste un peu moins de 14 semaines avant le championnat d'Europe de football, de soccer masculin. Donc, le tournoi revient pour la première fois en 36 ans. Par contre, selon les chiffres qu'on a en ce moment, les stades où auront lieu les épreuves ne sont pas adaptés. La plupart d'entre eux, donc, ont très peu de place pour les personnes en situation d'handicap.
Et ce qui est terrible, c'est que, évidemment, quand ils créent des places pour des événements comme ceux-là, dès que l'événement est terminé, ils enlèvent les places accessibles pour remettre des sièges ordinaires.
Oui.
Alors, ils défont ce qu'ils viennent de faire, ce qui fait que l'accessibilité ne reste pas permanente, là.
Effectivement, et on parle quand même, ils ont une ordonnance du
oui.
fait d'avoir des lieux qui sont accessibles, donc d'avoir un certain pourcentage de sièges qui sont accessibles dans les stades jusqu'à 5 000 $. 1% de sa capacité doit être réservé aux utilisateurs en fauteuil roulant. Par contre, ce n'est pas atteint en ce moment en Allemagne, donc pour l'instant, pour les grands stades, donc les stades de plus de 5 000 $, on devrait être à 0,5% et ce n'est toujours pas atteint.
Oui, c'est exact. Et le président de l'Association allemande des sports pour handicapés, Friedhelm Julius Becher, a déclaré « Es ist nur sein symbolisches Zeichen, deck aber keine wirklichen Bedürfnisse ab ». Ce qui veut dire que c'est juste un geste symbolique et ça ne couvre pas les besoins réels.
Oui, parce qu'ils ont demandé 500 piastres supplémentaires pour les fauteuils roulants qui seront disponibles pour le championnat d'Europe. Mais d'un côté, ce n'est pas suffisant. D'un autre côté, comme vous l'avez dit, François, ce sera enlevé dès la fin du championnat.
Dans la fin du championnat, alors on retombe, entre guillemets, on retombe à zéro. Les étudiants... les cours de médecine, les étudiants médicaux et paramédicaux en situation d'handicap. Ça, on va en parler après la pause, je pense, parce qu'on est un petit peu à la course. Juste avant de terminer, parce que ça, c'est quand même une question qui va être importante, la mannequin Nadjé Meskine de Toulouse a fait un défilé en fauteuil roulant au cours du Fashion Week.
À Paris. Donc, ça faisait partie également d'un concours où on recrutait des personnes en situation d'handicap. Et donc, elle a pu effectivement aller sur les plus grandes scènes de Paris. Le concours était pour les personnes de 20 à 50 ans.
On parle du concours Miss Extraordinaire qui est copié sur Miss France. Ben là, on pourrait parler de est-ce que ça fait du sens de faire un Miss France? Un. Deux, est-ce que... on en reparle après la pause.
Tour avec François Beauregard.
De retour. Les gens ici ont fait les gorges chaudes parce que je me suis exprimé brièvement en allemand. Mais quoi qu'il en soit, je vais travailler sur mon accent puis ça ira mieux la prochaine fois. Mais avant de partir pour la pause obligatoire... des 2 minutes, comme on dit au football. Élisane, on parlait de cette histoire de Miss Andy en France.
Extraordinaire.
Oui, c'est un... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, ça me met un peu
Oui, on a senti un certain malaise de la part de François.
Ouais.
Effectivement, hein, il faut se questionner à savoir sur ces concours de beauté-là qui... véhicule une certaine certains stéréotypes là, de beauté. Il a fait que la personne soit en situation d'handicap, ça pose une certaine ouverture. En même temps, on dirait que quand même on priorise la beauté physique.
On calque quelque chose. Qui est peut-être bancal ou dysfonctionnel d'un point de vue sociétal et moral. Mais comme pour créer une accessibilité à quelque chose qui, de toute façon, ne devrait peut-être pas exister. Voilà.
Oui, c'est bien dit.
Merci. Enfin, passons à la prochaine. Hein? Pourquoi donner du temps d'antenne quand on ne devrait pas? Les étudiants médicaux et paramédicaux en France en situation d'handicap.
Oui, donc il y a 9 personnes... J'ai perdu le mot,
fédération,
François.
Merci.
Fédération.
Oui.
Sur 10 qui disent que leurs étudiants ont reçu de la discrimination par rapport à leur choix de métier.
Oh.
Donc, dans le secteur de la santé. Donc, on aurait différentes problématique par rapport à ça.
C'est un sondage, en fait, qui a été effectué par 9 des 10 fédérations étudiantes qui regroupent les étudiants et étudiantes dans les sciences médicales et paramédicales. 48,2% des étudiants en situation, étudiantes en situation d'handicap ont été victimes de pratiques discriminatoires. C'est déjà beaucoup. Ce qui est un peu désolant aussi, c'est que 78% n'ont pas signalé les actes discriminants dont ils ont été victimes. Et ça, souvent, les gens ne veulent pas le faire parce qu'ils vont faire des vagues, puis ils sont dans un rapport de force qui n'est pas à leur avantage là, quand ils sont étudiants dans une faculté. Mais 85% des personnes en situation, des étudiants en situation d'handicap qui ont rapporté des actes discriminatoires n'ont pas vu de réel changement suite à leur dénonciation. Ça, c'est grave.
Et 63% craignaient que le handicap nuise à leur réussite. Ouais. Alors que 30% croyaient qu'il n'était pas possible de bénéficier d'adaptation au courant de leurs études. Alors que les adaptations, il faut le dire, c'est obligatoire. Il faut adapter l'école et les différents examens aux besoins de la personne en situation de handicap. Cependant, on parle de discriminations qui sont quand même graves, là. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas donner ces accommodations-là en disant à la personne que, de toute façon, étant donné sa situation de handicap, elle ne passera pas le test.
Ben voilà, ben pourquoi, en fait, vous êtes-vous inscrit ou inscrite de toute manière, hein?
De toute façon, donc, même si je vous donnais ce que vous demandez en matière d'accessibilité et d'accommodement, vous ne passerez pas le test de toute façon. Donc, je ne vous le donnerai pas.
Alors, finalement, le problème n'est pas l'accessibilité, c'est le service des admissions. Voilà, qui laisse des gens qui ne devraient pas se présenter. Là on fait du cynisme. Mais enfin, on toujours dans notre politique Oreo, comme quoi il y a du bon et du mauvais, le système d'exploitation iOS 18 pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des utilisateurs.
Oui, on parle d'un système qui va sortir donc au mois de septembre, qui va être disponible sur nos amis iPhone, François.
Oh oui.
Les iPhones qui sont donc très connus. Et ce système-là va fonctionner avec les commandes vocales qui vont permettre donc d'enregistrer des commandes personnelles qui vont pouvoir activer des fonctions sur le téléphone.
Oh, donc on va pouvoir créer ses propres boutons ou ses propres icônes, je dirais, sonores et pouvoir passer des commandes à notre téléphone intelligent. En donnant des petits bouts de phrases clics qui, pour nous, font du sens, ça va aider les personnes qui peuvent avoir de la difficulté à appréhender un écran tactile. Là.
C'est une amélioration de Live Speech qui est déjà en lien, qui est déjà fonctionnel donc sur les iPhones, qui permet, entre autres, de parier à son téléphone et que le téléphone puisse convertir au niveau du texte ou le contraire, donc d'écrire et que le téléphone soit capable de lire ce qu'on dit, y compris dans une conversation téléphonique. C'est ça, en fait, qui est relativement nouveau, c'est qu'on pouvait le faire, par exemple, sur différentes applications, mais là, on parle de pendant une conversation au téléphone avec quelqu'un.
On va être capable de le faire, entre guillemets, en direct,
oui.
En temps réel. Alors, ça va permettre aux différentes catégories d'utilisateurs de créer des catégories, d'y classer des phrases, d'attribuer une icône à chaque catégorie, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir se bâtir une forme de dialogue qui va peut-être permettre d'avoir une meilleure compréhension, surtout parfois quand on communique avec des organismes ou des services à la clientèle, puis on a peut-être avoir des difficultés à se faire comprendre ou d'être capable de manipuler notre téléphone, ainsi de suite. Ça va accélérer, puis ça va éviter les, si je peux dire, les bris de communication. Là.
Et il y a différentes autres choses qui vont être accessibles. Entre autres, il y a la police qui va être plus facile à agrandir et d'autres mesures d'accessibilité qui sont à venir. Donc, c'est très attendu, évidemment, pour septembre.
Septembre, iOS 18, puis on espère que on va être capable de d'utiliser ces fonctions-là en retournant derrière avec des systèmes d'exploitation précédemment lancés. Un peu du même, dans la même volée,
oui.
OpenAI a annoncé une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT.
Oui, ChatGPT, donc on parle beaucoup. Ça fait quand même quelques mois qu'il est possible de discuter oralement avec ChatGPT. Donc, il est capable de traduire nos questions à l'oral. Par contre, on propose une nouvelle fonctionnalité, dis-je bien. Le chatbot OpenAI est désormais capable de lire ses réponses à haute voix.
Oh.
Donc, il pouvait comprendre nos questions, mais maintenant, il est capable de lire les réponses à haute voix. Ce qui fait que pour quelqu'un qui a des difficultés visuelles, par exemple, c'est beaucoup plus facile. Donc, on pouvait poser la question et maintenant, on peut recevoir la réponse à haute voix. Ça rend plus facile pour les personnes en situation d'handicap et plus largement, ça fait une fonctionnalité de plus pour tout le monde et ça rend plus facile d'avoir accès aux réponses de ChatGPT un peu partout, hein, pendant
tout
qu'on marche
fait.
Sur le trottoir, entre autres.
Oui, ben ça a été lancé le 4 mars, ou ça a été annoncé, le lancement a été annoncé le 4 mars, dis-je. Cette caractéristique est en cours de déploiement sur les applications mobiles. Pour rappel, depuis quelques mois, il est possible de discuter oralement, comme vous venez de le dire. ChatGPT va avoir 5 voix différentes qui vont s'exprimer dans 37 langues. Et ça se distingue de son utilisation facile sur les applications iOS Apple, Android. On verra bien comment tout ça va se faire. Mais moi, je m'amuse toujours avec ChatGPT d'essayer de poser des questions auxquelles les réponses sont difficiles. Et à chaque fois, je suis surpris.
Et vous, bon? Bon, ChatGPT, bon encore François, tout le monde, c'est une bonne nouvelle.
On revient au Canada, on revient au Québec.
As-tu testé ton allemand avec ChatGPT? Pas encore.
Je ne répondrai pas à cette question. Non, moi
on s'en reparle la semaine
j'utilise
prochaine.
D'autres applis, mais quoi qu'il en soit. faudrait, j'ai peur un peu de la réponse que ChatGPT poliment risque de me donner. Voilà. Il y a eu une lettre ouverte dans
oui.
le Journal de Québec.
Revenons à quelque chose de
oui,
très sérieux, François.
Dans le cadre du 8 mars.
Dans le cadre du 8 mars, donc, qui était la Journée internationale des droits des femmes. Et il y a une lettre ouverte qui a été signée là, par différentes personnes, dont Stéphanie Brané, directeur de l'Association québécoise de l'équité de l'inclusion postsecondaire. Aussi, Lynn Beauregard du Réseau international pour le processus et production du handicap. Et Paul Lupien de la Confédération des organismes des personnes handicapées. Ce qui déplore dans la lettre ouverte, en fait, c'est vraiment que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, entendons-nous, les femmes, plus précisément, oui. Ça reste encore des choses à améliorer. Le travail n'est pas fait adéquatement, on n'avance pas assez vite, selon eux, dans la lettre ouverte. Donc, on parle, entre autres, du logement, à la crise du logement. Pour les femmes en situation de handicap, c'est encore pire que pour les personnes qui n'ont pas de situation de handicap. Alors que 20% de la population québécoise est en situation de handicap, seulement 1%
oui.
des logements sont réservés
oui,
aux personnes en situation de handicap.
Il était question aussi du climat, parce
oui.
que ça, c'est ça a l'air de rien, là, parce que le climat est une question qui a l'air générale, mais quand il y a des canicules, c'est pas tout le monde qui écope de la même manière.
Oui, donc la crise du logement qui touche les personnes en situation de handicap, les femmes particulièrement, de façon disproportionnée. Les femmes en situation de handicap sont aussi deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté et sont souvent évidemment oubliées dans les politiques de programmes d'aide d'urgence, des programmes d'adaptation, des programmes d'atténuation, comme on en voit pour les crises climatiques.
Ou les feux de forêt, ou les inondations, ou les autres catastrophes là, qui
sont en lien, oui, avec les changements climatiques.
Exact.
Donc, les femmes en situation de handicap sont oubliées des politiques d'aide d'urgence. Et on parle également, donc, de la crise en éducation.
Oui.
Alors que 28% des femmes en situation de handicap n'ont pas de diplôme d'études secondaires.
Et là, ça fait comme un cercle de pauvreté.
Oui, c'est un cercle vicieux de pauvreté. C'est beaucoup plus difficile d'accéder à l'emploi, même lorsqu'on est très fortement diplômés. Donc, imaginez quand on ne l'est pas. La plupart ont des difficultés à atteindre les études de post-secondaire faute de moyens, faute d'accompagnement ou faute, encore une fois, d'accessibilité ou d'adaptation. Même si, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire d'adapter.
Ouais.
Reste que il faut savoir se battre, et j'en sais quelque chose.
Ouais.
Il faut savoir se battre pour faire valoir ses droits. Et bon, des fois, on n'a pas l'énergie, on n'a peut-être pas non plus les moyens financiers d'accéder à des études qui coûtent très cher. Donc, c'est des obstacles supplémentaires pour les femmes en situation d'handicap. Et comme vous l'avez dit, François, c'est une roue qui tourne. Hein?
Oui.
Donc, ça devient beaucoup plus difficile d'accéder à un bon emploi, ce qui fait que notre salaire est moindre. On est en situation de pauvreté. Pour se loger, c'est plus difficile. Oui. Et vous voyez donc à quel point ça continue comme ça. Aussi, les femmes en situation d'handicap au niveau de l'accès au système de santé, ça reste encore limité. On en a parlé, François, dans les dernières semaines, au niveau des soins gynécologiques, entre autres, mais ils subissent la discrimination quant à leurs droits sexuels et à leurs droits reproductifs, entre autres choses.
Aussi.
Il y a aussi beaucoup de cliniques médicales qui ne sont pas adaptées, des tables d'examen qui ne sont pas adaptées. Donc, les femmes sont obligées de ne pas avoir...
ne vont pas à leur rendez-vous.
Ne vont pas à leur rendez-vous ou doivent changer de clinique, aller à une clinique beaucoup plus loin, ont des difficultés à trouver des rendez-vous. On parlait également, rappelez-vous, il y a quelques semaines, des machines à mammographie où il faut être debout.
Oui.
Pour une personne en situation handicap, dans un fauteuil roulant, se mettre debout, c'est pas facile. Ça peut être dangereux. On ressent malaise aussi de la part des intervenants, des médecins, par rapport aux conditions des femmes en situation d'handicap. Et donc, ce malaise-là pousse plusieurs femmes à ne pas aller effectivement à leur rendez-vous ou ont de la difficulté à trouver des rendez-vous avec des gens compétents dans des cliniques qui sont adaptées.
Voilà. Alors, cette lettre ouverte que je vous invite à fouiller, à chercher et à lire et était dans les journaux le 8 mars, vendredi dernier. On fait une pause, puis après ça, on reste au Québec. On parle budget et on parle culture.
Mm-hmm.
De retour, c'était Hike Québec. Québec, oui, Québec comme, comme Québec.
Québec comme Québec.
Mais Hike Québec est un saxophoniste de New York qui voilà, donc il ne faut pas... il s'appelle comme ça parce qu'il s'appelle comme ça. Ses parents s'appelaient comme ça, voilà.
Ben oui.
Et y a, c'est tout simple. En parlant de Québec, ça va être le budget demain.
J'aime vos façons de faire des liens, François. Ouais, effectivement, demain, on a le budget et les ressources et propriétaires. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec
oui.
demande au gouvernement provincial d'inclure dans son budget de demain 139 millions supplémentaires en mesure d'urgence pour maintenir la qualité des services offerts dans les résidences intermédiaires.
Oh! C'est pas rien, ça. Ben, mais c'est criant comme besoin, là. C'est pas
criant comme
chiffre.
Besoin. En raison de l'augmentation des frais de fonctionnement depuis la pandémie, de plus en plus de ressources intermédiaires peinent à joindre les deux bouts. Donc, il y a de plus en plus de ressources qui ferment, on l'a dit dans les dernières semaines. Et c'est de plus en plus difficile de placer les gens alors que la demande augmente. L'association demande donc 20$ de plus par jour par résident. Ce qui équivaut à environ 139 millions de dollars.
Ben, on verra bien qu'est-ce qui sort de... C'est sûr que de faire une demande dans les journées qui précèdent, c'est plus une question de pression politique, là.
Oui.
Puis de voir comment on pourra juger après à quel point le budget qui sera déposé demain est en harmonie avec les demandes du milieu.
Le but, c'est de mettre ça à l'agenda, François.
Exactement.
Pour parier quel est la politologue que je suis.
Voilà, ouais, ça c'est exact. C'est une bonne lecture, en
mettre
effet.
Mettre quelque chose à l'agenda. On s'en reparle la semaine prochaine.
C'est pour
donc,
ça, comme ça, on peut regarder. Ah, bien, c'est un sujet qui était demandé, puis là, on analyse le budget en fonction de ce prisme-là. Puis on peut voir comment... En parlant de...
L'important, c'est d'en parler.
Ça, oui. C'est vrai. C'est ce que Oscar Wilde disait... Même si on parle de moi en mal, ce qui importe, c'est qu'on parle de moi. Là, on va parler de l'école de... On change de sujet. On est rendu à Rivière-du-Loup, où il y a une école de musique qui a un truc, là. Moi, je trouve que ça a l'air formidable. J'en veux un pour Noël.
Oui. Donc, on parle effectivement d'un appareil de musique à l'école Alain Caron, à Rivière-du-Loup.
Oui.
Pour les personnes vivant en situation de handicap qui souhaitent jouer de la musique... Donc, on parle d'un...
Soundbeam.
Du Soundbeam qui s'apparente à une lampe de poche sur un trépied et qui peut donc avoir différentes ambiances sonores, faire des sons d'instruments, le tout grâce au mouvement de touches préprogrammées.
Oui, le Soundbeam est un instrument de musique électronique qui a été mis au point, inventé en Angleterre dans les années 80. À l'origine, c'était pour des danseurs de ballet dans le cadre de musique d'avant-garde. Alors, c'est un capteur de mouvement qui traduit les mouvements captés en des sons harmonieux. Alors, selon les mouvements que l'on fait, la vitesse, ainsi de suite, les sons qui vont être générés par le soundbeam vont varier. Alors, c'est comme une sorte de clavier électronique sans avoir besoin de toucher au clavier.
Oui.
Donc, on fait juste s'exprimer par le mouvement.
Oui, ce qui rend évidemment la musique plus accessible à des gens qui ne pourraient pas jouer d'instruments traditionnels.
Et en regardant des vidéos de l'école Alain Caron, on voit effectivement des personnes en situation de mobilité là, fort réduite qui sont capables et qui de créer des sons harmonieux à leur goût. Et il y a un plaisir évident là, de pouvoir créer quelque chose et de jouer avec cet instrument-là. Moi, j'aimerais ça en avoir un sous l'arbre de Noël.
On va se cotiser
oui,
à la
oui,
radio.
Parce que j'ai fait des recherches et un Soundbeam, ça va chercher dans les 6 ou 7 000 $.
Oh!
Oh oui, okay, ben, oui c'est ça. On commence la collecte tout de suite.
On va commencer la collecte tout de suite à la radio.
Oui. Alors, non, mais pas de blague. Ça a l'air vraiment... Moi, je suis sûr que ça va se démocratiser. Puis
oui.
Ça, et éventuellement, l'idée de pouvoir créer la musique qui vient de notre propre mouvement, là.
Fait intéressant, François. L'Université Laval fait oui. des recherches par rapport à cet instrument-là et à la façon de l'utiliser pour démocratiser la musique. Donc, on devrait avoir dans les prochains mois des recherches qui vont sortir de la part des chercheurs de l'Université Laval.
Ah ben, j'ai hâte de voir la suite. En parlant de mouvement et d'art, il y a des personnes qui, de par leur situation, passent leur vie au lit.
Oui.
Et ça ne les empêche pas de s'exprimer.
Il y a une exposition en ce moment à la galerie d'art de l'UQAM qui s'appelle « De la vie au lit », qui parle justement des personnes qui sont obligées d'être au lit de façon quotidienne.
Plus, non seulement quotidienne, je dirais permanente. Là.
Oui, pardon, oui. Mais en fait, c'est parce qu'on parle d'un côté des gens qui sont permanents, de l'autre côté des gens qui y sont pour des blessures ou pour des situations qui ne sont pas permanentes. Donc, on voit les deux côtés de la médaille pendant cette exposition-là. Oui. Par exemple, quelqu'un qui fait une dépression majeure, donc qui va être au lit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, mais qui n'est pas dans une situation où il va rester là toute sa vie. Donc, il y a différents types de clientèle et c'est ce qu'on veut vraiment exposer à la galerie de l'UQAM.
Je pense que c'est ouvert, ou l'exposition a cours jusqu'au 6 avril. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir même des performances vidéo. Un dispositif permet aux personnes qui n'entendent pas les paroles et la musique d'en percevoir les vibrations. Ça, c'est intéressant. Un atelier de danse au lit sera également prévu avec Octavia Rose Ingle le 16 mars. Ça, c'est 16 mars, c'est vendredi, c'est samedi. C'est samedi prochain. On rappelle qu'il y a quand même des artistes qui ont été, entre guillemets, cloués au lit, comme Frida Kahlo, dans la peintre mexicaine qui a commencé une grande partie de son œuvre après avoir eu de très graves accidents aux jambes. On parle de Marcel Ferron qui a été maintenu à l'hôpital par une tuberculose osseuse et qui a imaginé à partir de son lit d'hôpital les grandes verrières qui aujourd'hui ornent les stations de métro de Montréal.
Qu'on veut montrer en fait, François, c'est que le lit n'est pas seulement, bon, évidemment, un endroit où dormir, c'est aussi un endroit de création qu'il ne faut pas voir les personnes au lit comme étant des personnes invalides, donc qui sont incapables de créer. C'est ce qu'on veut montrer. Donc, il y a des personnes en situation de handicap, entre autres choses, qui peuvent quand même poursuivre des activités à partir de leur lit. Donc, c'est une situation à laquelle on n'est pas habitué de réfléchir. Ouais. Et on veut montrer ce pan-là, la réalité de certaines personnes.
En tout cas, ça va être intéressant de... Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas de cette
manière. On n'y pense pas. Moi, ça m'a amené à quand même beaucoup de réflexions. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont liées du matin au soir, parfois toute leur vie ou une grande partie de leur vie, mais qui vivent dans cet endroit-là, qui ont des conversations, qui créent des choses, qui travaillent. Et donc, effectivement, ça peut devenir un espace où on fait autre chose que simplement dormir.
Oui, tout à fait. Bientôt, on va devoir se quitter dans quelques minutes. Oui, ben avant de partir, on va faire quelques petites nouvelles en rafale. L'INCA va être à Repentigny le 26 mars. Hein, ça, c'est 26 mars, c'est dans deux semaines. Mettez ça à votre calendrier. Vous pouvez aller rencontrer les gens de l'INCA. Qui on le sait, était à Saint-Jérôme. Étiez-vous à Saint-Jérôme, Élisane?
Je n'y suis pas allée, François, malheureusement.
Ben, j'en ai entendu parler en bien de la part de certaines personnes handicapées visuelles de mes connaissances des Basses-Laurentides. Ils étaient à Gatineau plus tôt cet hiver, à Québec l'automne dernier. Mais ce sera à Repentigny le 26 mars. Venez rencontrer les gens de l'INCA au centre communautaire Laurent Venne, qui est au 225 boulevard J.A. Paré. Les gens de Repentigny, je suis sûr, connaissent bien cette adresse. Il va y avoir toutes sortes d'activités.
Différents ateliers, donc un atelier, entre autres, comment se vendre, des petites collations qui vont être données, aussi un atelier avec des applications accessibles par Lynn Dubé ou des interventions de groupe pour apprendre à mieux connaître les situations de stress pour les personnes avec des limitations visuelles, entre autres choses. Donc, vous pouvez consulter la programmation et vous inscrire si cela vous intéresse, si vous êtes dans le coin de Repentigny.
Le 26 mars, oui. Comment se vendre, c'est important dans des situations d'emploi, ainsi
entre
de
autres,
suite.
Quand on a des demandes d'emploi à faire et qu'on a des entrevues, ça peut tout changer. En plus, quand on est en situation de handicap, on a un obstacle supplémentaire. Donc, savoir se vendre, c'est toujours très important.
Exactement. Bien là, ça va être le temps de nous quitter. Hein? Dans les prochaines... ici, on a des pauses obligatoires. Alors, il faut les respecter. Hein? On parlait de la pause des 2 minutes au quatrième quart, Élisane. Ben, c'est un peu la même chose.
Exactement, même chose.
C'est tout pareil. Merci, Élisane Pellerin, pour cette recherche. Merci à Mathieu Tessier, germanophile, qui a été capable de corriger mon accent. C'est bien, ça. Claire Guérin à la recherche. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, le 18. Élisane, vous serez avec nous au bout du fil cette fois-là.
Oui, et vous pourrez faire l'émission en allemand, François, si ça y est, vous
J'oserais pas. Parfait. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.